son des bulles sur RCN.
Bonjour, bonjour amis auditeurs de RCN sur 90.7. Bonjour aussi à ceux qui ne nous écoutent pas encore, mais ça va venir parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Aujourd'hui, en fidèle chroniqueur de l'émission du Son des Bulles, 100% destiné à la bande dessinée, autour de la table, nous avons par ordre du hasard David.
Bonjour.
Multicasquette, illustrateur, auteur de BD, fantasy, chroniqueur, ici même régulièrement, animateur d'ateliers BD. Bonjour David, ça va ?
Bonjour, ça va très bien. Bonjour.
C'est bien, hein, t'es tout ça toi.
Ça va.
Alors un autre multicasquette, spécialiste et mémoire de BD qu'il a soit lu, soit écrite. La dernière est en ciel de Ben dans tous les bons magasins. Jeune homme Charles, ça va Charles ?
Bonjour, mais oui, ça va bien.
Oh, bah, tu m'en vois ravi, effectivement. Alors une autre chroniqueuse multicasquette aussi, voyageuse, exploratrice de tout ce qui ne bouge pas. Ce qui ne bouge pas, c'est la BD, hein, parce qu'elle, elle bouge. Francine ?
Bonjour à tous.
Bonjour Francine. Un autre encore multitâche, réalisateur de vidéos du Son des Bulles, des interviews d'auteurs ou de maisons d'édition, Olivier.
Enfant de tout pays, bonjour.
voilà. Un autre multicasquette aujourd'hui qui n'est pas autour de la table, ingénieur du son, spécialiste de manga, musicien, plein d'autres trucs. Joris, tu vas bien aussi ?
Oui, très bien, merci.
Ça va, t'es tout prêt ? Et puis moi-même, donc Françoise, aux commandes de ce jour, qui va bien et qui vous salue tous bien bas.
Bonjour.
Alors la thématique du jour, puisque, merci beaucoup, puisqu'on travaille sous contrainte, hein, c'est bien la règle, c'est la bande dessinée africaine, parce que Nancy a la chance et le plaisir d'accueillir le festival Livre d'ailleurs, édition Afrique, hein, l'an dernier c'était l'Orient, ça alterne effectivement, qui se déroulera du 26 au 29 mars à l'hôtel de ville de Nancy, salle Schepfer. Les grands salons sont pris pour cause d'élection. On y parle littérature engagée, on y parle militantisme, bande dessinée, avec une trentaine d'auteurs issus de 24 pays. Et pour cela, nous accueillons Ridouane Atif de l'association Diwan, qui porte cet événement et que nous avons au téléphone. Donc Ridouane, bonjour, est-ce que tu m'entends ?
Oui, je vous entends très bien, bonjour.
Bonjour. Bonjour Ridouane.
Bonjour.
Et ça va ?
Oui, très bien.
Un peu débordé, j'imagine, avec le festival ?
J'étais en pleine tournée de distribution du livret.
Voilà. Ah bah moi j'ai distribué les miens, il faudra que je reprenne. Alors voilà, eh bah parle-nous donc de cette édition 2026, en rappelant un petit peu ce qu'est Diwan, les livres, enfin bref, tout ce que tu peux dire, que tu as envie de dire.
Voilà, Diwan c'est une association qui va sur ses 20 ans, qui était à l'origine autour de la connaissance de la civilisation arabo-musulmane à travers des concerts de musique du répertoire, que ça ait d'Orient ou en Afrique, à travers des conférences et de fil en aiguille, nous sommes venus à développer un festival Livre d'ailleurs, et donc qui d'une année sur l'autre passe de l'Afrique à l'Orient. Voilà, en essayant de traiter tous les genres, que ce soit le roman, le conte pour enfants, la BD.
Faire vivre la bibliodiversité, c'est le,
exactement.
C'est le slogan que j'aime beaucoup.
Nous avons repris en fait le slogan de l'Alliance internationale des éditeurs indépendants. Donc c'est 800 maisons d'édition sur 55 pays. Faire vivre la bibliodiversité, voilà, dans notre région, enrichir nos imaginaires et pouvoir voyager avec ces auteurs qui viennent de loin.
Et qui viennent d'où alors ?
Alors, qui viennent d'Afrique, alors on a le Gabon, on a l'Ouganda, on a l'Algérie, on a le Maroc, on a le Zimbabwe, on a le Sénégal, le Soudan, la Tunisie, l'île Maurice, la Guadeloupe et la Martinique, puisqu'il y a un lien avec l'Afrique, le Bénin, le Burundi, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, voilà.
Ok, ce qui ne vient pas plus tôt, ce sera plus vite. Et donc, il y a des auteurs qui viennent de partout. Et alors, ce salon se déroule, on a donc dit, du 26 au 29 mars. Et ça se déroule comment ? Alors, c'est des tables rondes ?
Alors,
dis-moi.
Oui, on commence toujours maintenant notre salon par une conférence inaugurale sur un thème d'actualité. Et là, nous avons invité Monsieur Benjamin Stora pour venir nous parler de son dernier ouvrage qui est France-Algérie, anatomie d'une déchirure. Ça aura lieu le jeudi 26 mars dans les grands salons de l'Hôtel de Ville. Ensuite, le salon, lui, va se dérouler du 27 au 29 novembre, donc dans la salle Schepfer, comme tu l'as dit. Donc des tables rondes avec deux petites séances pour petits et grands qui aura lieu le dimanche où on aura droit à des contes pour enfants et donc il faut venir en famille. Et donc les auteurs qu'on accueille, en fait, en amont, ils vont faire des rencontres dans les écoles, les collèges, les lycées, l'université, les maisons d'arrêt et tout ça. Et donc ils ont des interventions. Donc voilà un petit peu comment se déroule le festival.
Est-ce qu'il y a des conférences où on peut assister en étant pas dans les pattes, pas dans l'école. Est-ce qu'il y a des conférences qui sont ouvertes au grand public? Voilà.
Donc les rencontres scolaires, non, parce que c'est des classes qui préparent avec leur enseignement, mais il y a deux rencontres qui auront lieu à Sciences Po. Il faut juste écrire à Diwan votre nom et prénom, parce qu'on doit donner la liste avant. L'une qui est faite avec l'écrivain soudanais Abdelaziz Baraka Sakin, et qui aura lieu le vendredi 27 mars à 20h, et l'autre avec Mohamed Serifi Villard, qui aura lieu le mercredi 25 mars à 20h. Mohamed Serifi Villard est un ancien détenu politique, compagnon de route et de prison d'Abraham Serfati, et son livre est un livre autobiographique.
Parce que quand je regarde les livres, même les bandes dessinées, puisqu'on va parler bandes dessinées après, c'est toujours très militant, c'est toujours très impliqué, il y a toujours des messages, on n'est pas dans de la bluette, je dirais, avec le respect pour les bluettes.
Voilà, alors c'est pas un choix dès le départ, c'est que la réalité elle est difficile et donc le livre la laisse transparaître, mais notre souhait c'est de parler de l'ensemble de la littérature, celle qui est engagée, on ne veut pas l'occulter, mais aussi celle qui est joyeuse, celle qui est pour les enfants et tout ça. Et donc le festival grandit au fur et à mesure. C'est vrai que, comme tu le dis, au départ, on avait un public militant, mais on souhaite diversifier le public, avoir les militants, parce qu'on est très bien avec eux, et c'est des gens qui portent des valeurs et des engagements, et avoir aussi le public famille pour pouvoir s'évader sur d'autres histoires, d'autres continents.
Alors le public famille, ce qui a attiré particulièrement mon attention, c'est dimanche, le dimanche de 12 à 13 ou de 13 à 14, je ne sais plus, avec le projet de s'ouvrir au monde. Il y a des... Ben voilà, explique-moi parce que tu sauras mieux que moi.
Oui, donc en fait, il y a deux séances. Il y en a une de 10h30 à midi. C'est des histoires et des chants pour petits et grands. Et là où on va accueillir Astou Diop du Sénégal, Iman Itayo du Bénin et Halima Hamadan du Maroc. Et donc, ce sera des comptines, des contes et histoires pour grandir. Voilà. Et elle sera suivie par une autre table ronde, des comptines, fables, BD et autres histoires pour transmettre. Là, on retrouve toujours Astou Diop et Ibrahima Sorel d'Issibé, qui est de la Guinée, et Tiwandé, qui lui est bédéiste de la Guadeloupe.
Et donc, comme on est bédéiste nous-mêmes, si tu peux nous parler plus spécifiquement des gens de la BD, je crois qu'on a une grande dame de la BD qui vient, si vous avez des enfants. Je vois Olivier qui opine.
Oui.
Ça faisait deux ans qu'on voulait la voir, mais nos finances ne permettaient pas de prendre un billet d'avion supplémentaire, parce que le festival Livre d'ailleurs, les challenges sont d'abord, les auteurs viennent d'ailleurs, donc il y a des billets d'avion, de train qui sont relativement onéreux. En plus de ça, on traite toutes les langues, donc il va falloir traduire. Et on voulait avoir avec nous Joël Epé-Mandingue, qui elle-même est BD et avait sous le pseudonyme d'Elions commis une BD avec 3 tomes, voilà, mais qui surtout est aussi fondatrice du Bilili BD Festival de Brazzaville. Et donc on souhaite faire un partenariat entre le livre d'ailleurs et ce festival de BD à Brazzaville, et donc l'avoir une année sur deux pour rester en contact avec l'évolution de la BD en Afrique.
Moi, je trouve intéressant. Enfin, Olivier, tu as l'air de vouloir dire quelque chose.
Oui. Bonjour, Ridouane.
C'est bonjour, Olivier.
Bonjour. Effectivement, sur la bande dessinée, le choix, là, on a 4-5 auteurs, même avec Joël. C'est un choix peut-être restreint, mais on sait que c'est difficile en Afrique d'éditer, de produire de la bande dessinée. Et qui est-ce qui fait les... Comment ça se passe pour faire le choix des auteurs, notamment de bande dessinée, qui vont venir?
Donc en fait, on a 4 conseillères littéraires, et donc nos 4 conseillères littéraires Donc c'est Joël Epemandingue pour la bande dessinée en Afrique, Sarah Rolfo pour toute la partie jeunesse. Sarah Rolfo est assistante d'édition à Marseille dans les éditions Le Peur a jauni. Et puis nos conseillères et programmatrices depuis la première heure, Kenza Sefrioui qui elle est directrice du Festival Livre d'ailleurs, elle est journaliste culturelle, critique littéraire et membre de l'Alliance internationale des éditeurs indépendants, et Elisabeth Deldoul. Alors comment on s'organise? On n'a pas beaucoup de moyens, donc on veut rester sur ce nombre de 30, d'une trentaine, 32, 34, ça dépend des éditions. Et donc avec normalement 6 BDistes, là on en a moins, je vous expliquerai pourquoi, 8 auteurs jeunesse, donc ça fait 14, et il reste 16 auteurs autour de l'essai, du journalisme, du roman, de la nouvelle. Donc voilà comment on s'organise. Cette année, il y a un peu moins de BDistes parce que les BDistes qui devaient venir, au dernier moment, on a eu un désistement et puis il y a eu un problème de santé pour l'un des autres BDistes. Mais normalement, on devrait avoir 6 BDistes par édition.
Après, je dirais peu importe la quantité parce que la qualité est là. La qualité et la diversité, puisqu'il y a sur les sélections bandes dessinées, il y en a un peu pour tous les goûts. Il y a du manga, du roman graphique, il y a pour des ados, des plus jeunes et pour des plus adultes. Donc il y en a vraiment pour tout. Et en termes d'événements ou de tables rondes de conférences autour de la bande dessinée, je crois qu'il y a deux événements, si je ne me trompe pas. Les dimanches.
Il y a une table, donc dans les tables rondes au niveau de Elisabeth et Kenza qui font la programmation, elles ont toujours pris le parti de pouvoir mélanger, même si on a un BDiste, c'est par rapport à la thématique qui peut être mélangée avec un romancier et tout ça, mais on garde une table spéciale BD, et la table spéciale BD sera notamment animée par Joël Epemandingue, et cette table spéciale BD, elle aura lieu le dimanche, de 13h à 14h, et elle s'appelle Le Monde en BD. Et là, on aura Juste Louis du Ghana, Tiwande de la Guadeloupe et Gaspard Njok du Cameroun qui a fait un très bon album. C'est un roman graphique plutôt, oui. Avec un anthropologue et qui parle de l'immigration, mais là il parle de la mort de quelqu'un et donc le rapatriement du corps dans le pays. Donc voilà.
C'est quoi le titre de cet ouvrage?
Le titre de cet ouvrage, c'est Au-delà de l'exil.
De l'exil, voilà. Ouais.
Parce que dans les ouvrages qu'on avait, là, on a Un voyage sans retour, au niveau que j'ai trouvé en aquarelle, que j'ai trouvé splendide.
Oui, tout à fait. Alors celui-ci est épuisé de Gaspard Njok, et donc on a pris le dernier.
Voilà, Les enfants du pays qui parlent de la décolonisation. Là où on découvre des mots comme par exemple la dictature conviviale, je trouve que c'est à lire, mais entre les lignes et surtout en étant dans les détails, parce que l'école des Blancs et puis la dictature conviviale, c'est quand même des mots qui sont forts et qui traduisent des histoires un peu lourdes à porter, j'imagine. Enfin, c'est pas que j'imagine, voilà, c'est que j'en suis sûr.
Et tu vas avoir aussi le filtre des BDistes, parce que pour certains, ils sont nés, vivent et grandissent en Afrique, et pour d'autres, leurs parents sont venus ici, ils sont BDistes, comme Annick Kamgang, donc du Cameroun, qu'on aura le plaisir d'avoir, qu'on a eu à la première édition, et c'est très important, en fait, comment les générations suivantes se ressaisissent de leur histoire, qui est multiple, et qui en parle. Et là, c'est intéressant.
Et dans les gens qui sont là, je trouve qu'il y a un grand écart dans ce que j'ai lu, là, un grand écart entre les cultures de leur pays d'origine et les diplômes universitaires qui existent. Il y a du beau monde autour de cette table, des gens qui sont vraiment diplômés et qui ont fait des choix de raconter leur histoire. Ben Francine, vas-y, dis.
Non, ça l'a fait. Parce qu'on réagissait par rapport à du beau monde autour de cette table. On a pris ça pour nous.
Il y a du beau monde aussi.
Vous avez raison, elle a commencé par vous
présenter. Hein.
Ah, toujours, oui, merci. C'est gentil,
Edouane. Non, mais j'ai vu. Il y a un auteur, je ne sais plus lequel, qui est universitaire, il est anthropologue, et à côté de ça, il est encore roi dans son pays d'un peuple. Voilà, et je trouvais qu'il y avait des grands écarts. Il est petit-fils de sorcier. Il y a des grands écarts entre la culture moderniste, hein, plus moderniste, et puis les traditions. Et je trouve que ça se mêle bien dans les BD, dans celles que j'ai lues, ça transpire. Et je trouve que c'est,
Oui, et même les trajectoires des gens sont très diverses. Et par exemple, si tu prends Ananda Devi, qui est la présidente, qui est de l'île Maurice et donc de l'océan Indien, mais c'est une grande dame avec beaucoup de distinctions. Mais quelle modestie quand tu l'as au bout du fil, quand on échange par mail, l'attention qu'elle a pour une petite association qui porte ce festival. Donc en fait, il y a beaucoup d'humains qui ressort, mais on le voit avec les auteurs, on le voit sur les témoignages que nous font les classes, que ce soit les enseignants ou les élèves, mais aussi par rapport à nos partenaires qui ici s'identifient à ce festival et le portent. Et moi, je pense que c'est le festival de tous les Nancéens, tous les Lorrains, ils peuvent le porter, participer, proposer des personnes qu'on pourrait ramener, ce serait super. Voilà.
Bah, tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait une conférence qui se déroulait à Sciences Po. C'est Sciences Po qui était partenaire il y a 2 ans ou l'année dernière. C'est eux qui vous ont sollicité pour réintervenir. Donc, c'est quand même un
gage. Tout à fait.
J'aimerais bien donner vraiment toute l'ampleur de ce festival avec la majesté des gens qui viennent. Et voilà, les nombreux primés qui sont là dans leur pays. Et c'est vraiment du beau monde, je redis, ça fait rien.
Voilà. Et donc, pour Sciences Po, c'est les étudiants qui nous ont sollicités et on pensait qu'ils prendraient qu'une seule rencontre, mais ils étaient intéressés par 2 trajectoires. Et donc, ils ont fait les 2 trajectoires et on va partir avec eux et on est très contents de cela. Il y a aussi des rencontres, j'ai oublié de le dire, en maison d'arrêt à Nancy et à Metz, dans les médiathèques, dans les associations de quartier. Voilà. Donc, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, au niveau de la culture, beaucoup d'incertitudes sur les financements et tout ça. Mais bon, il faut continuer à exister et à vivre tout en faisant attention. Et j'espère qu'on pourra avoir les moyens de faire vivre la bibliodiversité dans notre région avec vous et pour nos enfants.
Oui, bah pour nos enfants, petit à petit, pour la vie dans le monde, quoi. Ça, un message humaniste, c'est certain, mais je trouve que Livre d'ailleurs le porte bien. Si on veut trouver le programme, on peut le trouver comment, indépendamment des fascicules qu'on distribue un peu partout?
Donc, c'est très facile en allant sur le site de Livre d'ailleurs.
Avec un S et attaché.
Avoir les belles présentations. C'est tout un site. Nos 2 sites sont faits par un bénévole. On n'a pas les moyens et heureusement qu'on a des bénévoles qui ont une très belle touche design et qui nous offrent ça. Donc au niveau du site de Livre d'ailleurs, il y a toute la présentation de la présidente, des conseillères, de chaque auteur avec son ouvrage. Et il est même plus complet que le livret, ce qui est normal, on ne peut pas tout imprimer. Et il y a le livret en téléchargement. Et le livret existe aussi en téléchargement, il y a un lien sur le site de Diwan en Lorraine.
Diwan, D-I-W-A-N.
Voilà, et le reste ça. En Lorraine. Sinon, Livre d'ailleurs, il y a un site spécifique pour Livre d'ailleurs.
Bon, voilà, moi j'ai pris beaucoup, enfin dans les livres que j'ai lus, Le Voyage en retour, moi qui n'aime pas les mangas, je le dis, je ne suis pas fan, effectivement, j'ai lu Red Flower, et je trouve le personnage vraiment délicieux de ce gamin qui est plein de muscles et plein de colère et qui veut être un homme, et qui va découvrir qu'être un homme, c'est autre chose, et autrement. Et ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié.
Super.
Voilà. Donc,
et puis merci aussi beaucoup au Livre d'ailleurs, à Ridouane en particulier, d'associer RCN aussi à ce salon depuis quelques années. Merci beaucoup. Et puis, on a prévu aussi d'aller voir les auteurs bande dessinée qui seront présents. On a déjà quelques contacts. Merci beaucoup pour ça, Ridouane.
Merci, Ridouane. C'est très gentil.
C'est nous
à bientôt.
Et vous remercions. Et le festival appartient à tout le monde. Donc, voilà, on le fait vivre ensemble.
Eh ben, au plaisir de te retrouver. À bientôt.
Okay. Merci. Je vous souhaite une belle séance. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
Au revoir. Bonne journée. Ah ben, moi, c'est toujours un régal de rencontrer Ridouane. Donc, on va faire une petite pause musicale. Ah, une grande pause musicale. Alors, j'ai eu des idées complètement sautes et grenues.
Qu'est-ce que t'as trouvé pour l'Afrique?
une franco-congolaise, je crois, Théodora, quand même, soyons modernes.
Oh,
et puis,
bien.
En plus, voilà. Si tu veux bien, Joris.
On est à la page.
Baby boo, tu sais, je vaux beaucoup. Même si parfois je ne joins pas les deux bouts. C'est à cause de mon fiat qu'il éloigne trop mes genoux. Et mes gros seins me font souvent mal au cou. Baby boo, tu sais, je vaux beaucoup. Même si parfois je ne
salidadis qui ont trop de crocs. L'Iracli prête à quitter leur vieux raclo. Je les tue puis sans suite tel une recrue.
Ils m'ont pris mon dis, j'aime encore moins la police. Sexy ghetto, appelle-moi freaky malpoli. Si je choisis une bague, son diamant est bien poli. Donc mon chou à la barre n'est jamais ramolli.
Le son des bulles sur RCN.
Merci Joris pour cette pause. Tu sais que tu interviens quand tu veux, même si jamais tu n'es pas chroniqueur ce jour. Ce sera toujours avec plaisir. Donc tout à l'heure, on a parlé tradition et modernisme. Donc nous allons aussi entre les deux avec Charles, notre auteur du siècle dernier.
Voilà,
pour, voilà Charles Dino pour, je ne sais plus, je viens de regarder le titre.
Eh ben, c'est, je vais vous parler d'une éducation algérienne. Parce que bien... Ben, l'Algérie, c'est en Afrique, et beaucoup de gars de mon âge connaissent l'Afrique pour la guerre d'Algérie, parce qu'on entendait ça du matin au soir, et c'était quelque chose auquel on comprenait pas grand-chose. Et en plus, quand il y a eu les événements de l'OAS, on comprenait encore moins, mais en plus, il y avait des bouts de plâtre qui volaient partout. C'était quand même une époque un peu spéciale. Alors, bon, l'éducation algérienne, c'est une BD parue chez Dargo en 2003 dans la collection Portraits Souvenirs, une collection dans laquelle on retrouve des signatures Pierre Christin, Nigot Singer, la Diva, la Légion d'honneur, enfin, on en a déjà parlé ici. Et c'est bien sûr des publications qu'on a déjà évoquées dans cette émission. Alors, dans cette BD, on suit Albert, c'est un jeune soldat qui a pu que 80 jours à tirer en Algérie, et c'est la fin de la guerre d'Algérie. Il va y avoir les accords, ce qu'on appelle les accords d'Alger. Donc, l'Algérie va être bientôt indépendante. C'est dans ce climat-là où, toutes les cartes se rebattent. Les cartes se rebattent. On peut le dire comme ça. Alors, c'est à l'époque-là que se manifeste le plus fort l'OAS. Parce que, il y a des gens qui voulaient tout perdre. Alors, donc, il y avait plusieurs options. Il y avait, l'option qui avait été choisie par le gouvernement, c'était l'Algérie. Enfin, c'est l'indépendance, ce qui est normal. Mais il y avait une partie des gens qui habitaient là-haut, qui étaient de souche européenne, qui voulaient faire, une partition de l'Algérie, c'est-à-dire qu'il y a une partie française qui, en gros, entre Alger et Oran. Mais, donc ça, c'était une position dans l'OAS, mais ce n'était pas la position majoritaire. Parce qu'il y en a plein qui disaient, ce ne sera pas possible, une fois que l'Algérie va devenir indépendante, ce sera un pays de culture musulmane, et on ne va pas intégrer un pays de culture européenne, ça pourra pas marcher.
Ça fait une enclave.
Donc rien que dans l'ORS, donc il y avait plusieurs combats, c'était plusieurs groupes. Et puis dans l'armée, c'est-à-dire que le contingent suivait les ordres des officiers, mais les officiers c'était difficile pour le contingent de prendre position. Mais malgré tout. Enfin, je me rappelle que moi, j'y suis allé un petit peu après, mais déjà, quand tu montais dans le train, tu avais des tracts du Parti communiste où on te mettait bien « Rappelle-toi qu'avant d'être soldat, tu es un travailleur. » Parce que, si tu veux, c'était l'idée de faire l'armée, c'est un devoir national, mais il arrive un moment, il faut savoir désobéir. Mais c'était pas facile, et c'était... pour ceux qui sont nés un petit peu avant moi, enfin des copains d'école, ça a été comme une période un peu casse-cou. Voilà, alors ça traite de ça, cette BD, une éducation algérienne. Alors c'est un dessin assez nerveux de Brignon. C'est marrant, c'est pas de la ligne claire, c'est pas du comics, c'est pas du manga, c'est un dessinateur un peu particulier. Et c'est un gars qui il a pas des études de dessinateur. C'est un gars qui était... ingénieur. C'était un ingénieur et il faisait ça sur ses temps libres. Enfin bon, il a pris des cours après avec Pichard, c'est le dessinateur de Paulette qui a initié de pas mal de dessinateurs. Et il lui a conseillé de se mettre vraiment à la BD. Donc il a commencé à faire des BD pour l'Écho des Savanes et il est entré en 1980 chez Pilote. Pilote qui était la référence à l'époque. Et là, il fait la connaissance de Guy Vidal qui va lui faire ce scénario. Alors, Guy Vidal, alors attention, là, c'est pas le premier venu, parce que Guy Vidal, alors lui, c'est un journaliste de formation, et c'est lui qui va être rédacteur en chef du journal Pilote dans les grandes années du journal Pilote, c'est-à-dire dans les années 70-80, il va prendre la succession de Goscinny. Bon, on se rappelle de Goscinny,
oui,
qui va, bon, qui va mourir filé. En faisant un examen cardiaque. Donc Vidal va prendre la direction du journal Pilote, mais c'est là aussi c'est une époque charnière dans l'édition, c'est-à-dire que on peut pas imaginer ce qu'était le journal Pilote dans les années 60-70, c'était la référence, parce que tous les grands de la BD, bon, de Cabu, Mandrika, Gottlieb, enfin bon, Rézère, enfin tout cela sont passés par le journal Pilote, c'était la référence des références. Mais à partir des années 80, il y a plein d'auteurs justement qui avaient été formés dans Pilote, qui vont prendre leur indépendance pour fonder les Codes des Savanes, Fuite Glaciale, Métal Hurlant. Enfin bon, c'est donc Pilote commence à être un peu marginalisé, mais Vidal va quand même réussir à tenir l'affaire en prenant des scénaristes comme Christin et des dessinateurs comme Anki Bilal qui vont relancer la machine pour les années 80. Mais malgré tout, on sent que c'est en perte de vitesse et le journal Pilote va décliner jusqu'en 89 où là ce sera terminé. Voilà. Donc excellente BD, donc avec un scénariste de talent Guy Vidal et un dessinateur Alain Brignon. Ils nous ont quittés tous les deux dans les années 2000. Ils sont morts assez jeunes. Donc bon, pour Vidal, on peut dire qu'il a écrit aussi des romans. Il a fait aussi pas mal de feuilletons pour la télévision. Et il a fait aussi, avec Alain Brignon, une BD érotique qui s'appelle Les dessous fripons de la bande dessinée. Voilà.
Ah oui. que tu
C'est tout pour aujourd'hui.
C'est tout pour aujourd'hui. Et la bande dessinée, donc, elle parle de tout toute ça, cette de l'Ouest.
Donc ça parle de la fin de la guerre d'Algérie. D'accord. Donc, comment un soldat. Comment il vit ça, c'est intéressant.
Eh ben merci Charles.
Voilà.
Pour cette page d'histoire.
Période trouble, elle est compliquée. Cette période-là, période de la guerre d'Algérie.
L'Algérie, c'est la conférence inaugurale. Je reviens sur le livre d'ailleurs. C'est la conférence inaugurale qui a lieu effectivement pour parler, puisqu'ils sont dans l'actualité avec quelqu'un qui va parler.
Et c'est quelque chose qui a été longtemps ostracisé au niveau de la BD, événements d'Algérie. Et d'ailleurs, un des premiers à en avoir parlé, c'est Baru.
Ah oui.
C'était un épisode dans un de ces. Alors, je me rappelle plus du titre. Je sais qu'il y a Younes dedans. Et effectivement, il y a un événement de la guerre d'Algérie et c'est un des premiers à l'avoir fait.
De relire le truc-là, ça m'a rappelé Choron. Parce que Choron, il avait été sergent pendant une guerre coloniale, il avait fait l'Indochine.
Professeur Choron.
Ah oui, le Choron de Harakiri. Et une fois, j'ai dit, mais enfin, quand même, t'as fait l'Indochine et tout, tu tirais ces gens, même dit, on nous tirait dessus. Enfin, ben, je réponds. Alors, quand il raconte ce qu'il était allé foutre là-haut, c'est quand il avait été séduit, vous allez voyager, vous allez. Oui. T'es marié là-dedans, puis tu parles de se retrouver en Indochine.
Le classique.
C'est beau, l'Indochine.
Ah bah oui, oui.
Vous verrez du pays, qu'il disait.
Donc toutes ces aventures. C'est vrai que ça fait voyager, alors en bien ou en moins bien, en fonction des événements qui se passent. On va passer la parole à Olivier avec les BD qui sont présentées au Salon de Livres d'ailleurs, m'as-tu dit ? Effectivement, pour rappeler. Bon, voilà.
Oui, les BD qui sont présentées au Livre d'ailleurs.
On les remet debout.
Ouais, voilà. Alors, il y en a plusieurs. Je ne vais peut-être pas toutes les évoquer parce que par rapport au temps, il y a Red Flower que tu montres là à l'instant. C'est un manga. Réalisé par Just Louis, et c'est l'histoire d'un jeune garçon qui habite une tribu dans un pays imaginaire, dans le peuple Baoré, un peuple qui prône la non-violence à partir d'un art martial qui s'appelle le katafali, je crois. Et pour être dans ce village, il y a un roi, il y a une garde du roi, etc. Et pour intégrer la garde du roi, il faut maîtriser ce katafali, cet art martial de la non-violence. On traite les conflits sans violence. C'est ça le principe. Sauf que le jeune garçon, le jeune héros qui s'appelle je ne me rappelle plus.
Kelly,
c'est un jeune, il a entre 7 et 10 ans. Il est fougueux, il est impétueux et la non-violence, il ne sait pas trop ce que c'est, quoi. Ça, c'est la jeunesse. Et il faut, pour régler des choses, lui, il se bat. Et c'est pas ça du tout. Et plus il se bat, plus il est rejeté par son peuple et par le roi d'ailleurs. Et le roi qui est son père, entre parenthèses. parenthèse aussi, ce qui ne simplifie pas les choses. Donc c'est un roman, voilà, qui, c'est un album, c'est un shonen. Ce qu'on appelle un shonen, c'est un roman pour les, enfin un album, un manga pour les jeunes, pour les adolescents. Et n'est-ce pas
c'est exact.
Ah, oui, okay. Oui, c'est il faut que je fasse attention à ce que je dis parce que
non, mais c'est bien à faire la différence avec shonen, seinen, donc pour les jeunes adultes. Donc oui. Là, on est plus haut. Et shoujo pour les jeunes filles. Donc shoujo, shonen, jeune fille, jeune garçon. Donc oui, bravo Olivier.
Eh bien oui, j'ai un peu révisé si tu veux. Donc voilà, le parcours initiatique pour devenir un homme pour Kelly, ça va être un petit peu compliqué. Mais voilà, l'album, il est très bien fait. Tu avais l'air de le confirmer aussi tout à l'heure. Françoise.
Moi, Françoise, oui.
Oui, c'est bien, c'est Françoise.
C'est Françoise. Donc franchement, c'est... Moi, j'ai passé un bon moment. Le dessin, j'ai trouvé magnifique. Et à juste titre, parce que je crois que l'auteur a étudié au Japon les dessins. Donc là, j'ai trouvé que c'était... c'est très fourni en termes de dessin, mais c'est quand même très clair et très lisible.
C'est ça. Hein? C'est pour ça que j'ai bien aimé. Moi, j'ai du mal avec les mangas quand ça dépasse d'une case à l'autre. Enfin, j'ai vraiment du mal à lire à l'envers déjà. Et là, je l'ai trouvé pour une lectrice comme moi, peu aguerrie au manga. Excuse-moi, Joris, hein. J'ai trouvé lisible.
Je t'excuse.
Merci. J'ai trouvé lisible, j'ai trouvé aisé. Et puis voilà, et puis il y a des phrases, il y a plein de leçons pour ce jeune. Ouais. Être un homme, c'est être responsable de ses actes. Et voilà, c'est quand même que... Voilà,
alors c'est quand même un manga qui sent fort la testostérone, hein, parce que il y a beaucoup de mâles, beaucoup de muscles dans tout ça. Mais les femmes ont quand même un rôle clé dans l'histoire. Et donc là, il y a deux tomes. Il y a un troisième qui normalement devrait sortir, on l'espère, hein, parce que le deuxième est sorti en début 2025, donc ça ne devrait pas tarder. Et puis, donc, l'auteur, lui, sera présent au Salon du Livre, d'ailleurs, sur deux tables rondes, le dimanche à 12h et le dimanche... Non, sur plusieurs même. Mais bon, ça, on pourra aller voir sur le programme. Donc, le dimanche à 12h et à 13h, et sur une autre table ronde dont le thème, c'est résoudre les conflits sans violence, justement. Donc, c'est bien à propos. Je vous en parle d'un deuxième.
Vas-y, avec plaisir.
Allez. Tiondi, on va parler de celui-là. C'est aussi un. Alors, je ne l'ai pas parce que c'est en version numérique. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, les bandes dessinées africaines sont quelquefois difficile à éditer en version papier. Oui. Et le numérique, la publication sur des sites, sur du webtoon, etc., et ben c'est plus facile. Et donc, je vais vous parler de La Planète Taku, qui est un Kemti et réalisé par Tiondi, auto-édité par Tiondi. Et là, vous allez me dire, c'est quoi un Kemti?
Qu'est-ce que c'est qu'un Kemti?
Alors, c'est facile, hein, c'est la contraction de deux mots, Kem, qui signifie noir, et Ti, qui signifie image. Donc, image noire et par extension, c'est la bande dessinée africaine. Voilà, vous aurez au moins appris ça. La Planète Taku, c'est un shonen neketsu. Alors là, là c'est une précision,
mais précision. C'est globalement la même chose. C'est ça se bat beaucoup de combats. Donc c'est le but, c'est d'avancer dans l'aventure et de grandir en tant que personnage, tout en combattant toujours plus des gens qui sont de plus en plus forts. Voilà, toujours à destination.
C'est ça.
Des jeunes garçons.
Des jeunes garçons, mais ça marche très bien. Bien sûr,
ça marche pour tout le monde.
J'en suis la preuve.
C'est des catégories, mais ça veut rien dire.
Nous, on se bat contre rien, jamais, Francine.
Non, mais c'est Dragon Ball, One Piece, tout ça. Ça fait bien le Dragon Ball. Parfait. Dans Planète Taku, on va donc suivre une fratrie de trois enfants, Taiji, Taya et Takio. Ce sont des triplés, ils ont à peu près 7 ans. Ils vivent dans le désert avec leur grand-père, Tioro, autour d'une statue géante, d'une statue de divinité. Et ensemble, ils pratiquent un art martial qui s'appelle le Jokan et le Mayolé. Bon, Jokan, Mayolé, vous allez me dire, c'est quoi aussi?
Non, on va pas dire ça.
Enfin, bref, c'est un art martial qui combine combat, danse et musique rituelle. Donc, les trois enfants, les triplés, s'entraînent à ces arts martiaux. Et un jour, il y a une énorme goutte d'eau qui traverse le ciel, qui s'écrase dans le désert. Emportés par la curiosité, les trois enfants se rendent au point d'impact et découvrent un homme inconscient. Cet homme, c'est Spiridius, un combattant albinos venu d'une contrée lointaine. Ami, ennemi?
On ne sait pas.
Ah ah, ça, on ne sait pas.
Surtout albinos, mais c'est dur.
Donc ça, je vous laisse le soin de découvrir dans tout le manga. C'est une série qui a 6 tomes. Il y en a un 7e en préparation, mais en financement participatif, donc sur Internet, et ça, c'est en cours. Bon, voilà, c'est une histoire, comme on l'a dit, un peu de lutte. Moi, j'ai vraiment adoré, parce que il n'y a pas que ça, hein, c'est un manga africain. L'intérêt, c'est que ça nous apporte un peu de culture africaine. Mmh. Le jokan, le mayolé, les choses comme ça, c'est des choses qui ont une référence à la culture de l'Afrique, à la culture des Caraïbes. Et ça, on en apprend beaucoup. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui est important parce que c'est un manga qui nous enrichit aussi. Bien sûr, il y a tous le mécanisme de se battre, de se surpasser, etc.
Bon, on glisse comme ça des petites choses à chaque fois. Bah,
et à chaque fois, oui, la langue, exactement. Il y a même des petits astérix pour expliquer à quoi, comment se définit ce mot, que veut dire ce mot en africain. Donc, c'est vraiment bien fait. Moi, j'aime bien ce genre de choses. Tiondi, on le verra sans doute aussi, l'auteur au salon du livre d'ailleurs. Il sera dimanche pareil, le 29 mars, de 12h à 13h pour Contine, Fable et BD, et à 13h pour Le Monde de la BD africaine, voilà, dans les salons chez Pfer. Oui. Et puis les deux autres présents, donc il y en a un qui est là aussi, Francine, Voyage sans retour. Alors il y aura aussi sans doute l'autre album de Gaspard N. Nyok.
Il y en a même fait un troisième qui est la Calasse.
Oui, alors je ne sais pas, parce que je pense qu'il parlera plus de l'exil.
Exactement, ouais. C'est son dernier album. Oui, voilà. Donc les deux autres, c'est vrai qu'ils datent un petit peu. Et c'est vrai que Gaspard N. Nyok, j'ai eu la chance de le rencontrer deux fois. Et vous verrez, c'est vraiment quelqu'un d'absolument charmant, avec une grande culture. Et c'est vrai qu'il vit entre... c'est un fanat d'opéra, hein, dont la Calasse. Mmh. Et c'est vrai qu'il vit vraiment entre l'Italie et Paris, mais plus côté italien que... voilà. Mais c'est vraiment un personnage... Bon, ses BD, ses aquarelles sont
c'est
absolument
sublimes. Ça attire les yeux. Oui.
Comme ses dédicaces, d'ailleurs. Quand on prend les dédicaces,
la caméra est là-bas.
Donc voilà. Donc c'est vraiment un grand dessinateur et un personnage.
Donc voilà, on aura aussi plaisir à le rencontrer. Et puis le dernier album, c'est Les Enfants du Pays. Là aussi, c'est l'histoire d'une jeune femme qui habite à Paris et puis qui découvre que son papa, qui est resté au Cameroun et voilà, est très malade et donc il y a urgence d'aller le voir avant. Mais le problème, c'est que son père les a abandonnés à elle et sa famille il y a 20 ans auparavant. Pourquoi il l'a abandonné? Qui est donc ce papa? Bon, elle se décide d'aller voir, elle fait le voyage jusqu'au Cameroun, elle va à l'hôpital le rejoindre, finalement il n'a pas la force de parler, et elle va voyager dans ce pays qu'elle méconnaît un petit peu, et découvrir des personnes, des gens de la famille, des amis qui ont côtoyé ce père, et découvrir
Page d'histoire,
une page de la personnalité du père et une page de l'histoire du Cameroun. Mmh. Et là aussi, c'est intéressant parce que on découvre, moi je ne connaissais pas ce point de l'histoire du Cameroun, je ne sais pas si on est... Mais dans le livre, c'est pour ça qu'on ne le connaît pas, on découvre que beaucoup de cette histoire a été un peu camouflé par le
presse,
colonial de l'époque qui était la France. Donc là, c'est vraiment intéressant et je pense qu'on aura aussi beaucoup de questions à poser à Annick Kamgang. Voilà.
Moi, je l'ai dépioté ce livre, effectivement, parce qu'il y a un Cameroun de façade, un beau Cameroun, effectivement, avec des gens qui ont participé, et puis d'autres qui ont résisté en dessous, et avec les secrets, avec les trahisons, ce qui était caché, le militantisme, c'est assez violent, il n'y a pas de mort, c'est pas le problème de la violence des morts. Un peu, oui, mais c'est pas sanglant, quoi, c'est pas sanguignol. Non. Mais en attendant, on voit bien cette violence, des trahisons, des peurs, de tout ça, et c'est vraiment bien décrit.
Ouais.
Voilà, moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire.
Oui, parce qu'il y a, comme on dit toujours, il y a la petite histoire dans la grande histoire. Il y a l'histoire familiale très touchante, parce que voilà, on va voir ce père qui est aux portes de la mort, quoi. Et puis voilà, bon, on ne le connaît pas trop, on finit par... on se dit des choses, mince, si j'avais su.
Il y a une phrase qui m'a marquée, c'est ce qui était dit à l'école. Le Cameroun, c'est historique. Le Cameroun appartient aux Français, qui sont nos grands frères, et nous aident à nous développer avant que nous soyons capables de nous occuper de nous-mêmes. C'était un petit peu, c'était complètement d'ailleurs, puisque c'était enseigné à l'école, le discours qui était dit à l'école dans les années 60.
Tout à fait.
Bon, heureusement, ça a évolué, ça change, mais il y a dû avoir des crispations. Ça rejoint un peu ce que tu disais sur l'Algérie tout à l'heure. Bref, les histoires de décolonisation qui sont quand même...
Très compliquées, de toute façon.
Assez compliquées. Oui.
Voilà, puis on aura la joie aussi de rencontrer Joël Épée Mandang.
Ah oui.
C'est bien parce que moi, je prononçais Mandengue. Donc, je vais copier la prononciation de Ridouane Mandang.
Bon, on va faire comme ça. Bon, ben dis donc, c'est magnifique tous ces ouvrages. Francine ?
Oui.
Tu te sens prête à nous
partir ailleurs
avec les actualités et puis le visage du créateur. Allez, vas-y, fais une parenthèse.
Je commence par les news. J'ai commencé par les news. Beaucoup, il y en a beaucoup. Hein. Donc, j'ai fait un petit tri quand même. Donc, sont parus en janvier les deux tomes de deux diptyques. L'adaptation du cultissime Nom de la Rose par Manera chez Glénat. 72 pages, 18 euros. La mort de l'utopie, le tome 2 de Rue de la Grande Truanderie. Avec J.D. Morvan au scénario et Romain Rousseau-Perrin, qui est paru chez Grand Angle, 56 pages, 15,90 €. Je rappelle qu'on avait présenté justement le tome 1 de ce diptyque et diffusé l'interview de Romain Rousseau-Perrin lors d'une de nos émissions de la saison dernière. Donc, le tome 2 vient de sortir et clôt justement cette histoire. Alors, dans un tout autre genre, on a Jeune et Fauché de Florence Dupré-Latour, qui est paru aux éditions d'Argo, 212 pages, 24,50 €. Alors, issue d'une famille bourgeoise, elle nous livre avec l'humour corrosif qui la caractérise, un témoignage fort sur ses galères d'étudiante, de mère célibataire et ses années de survie avec ses deux enfants et d'autrice de BD précaires. Ça, c'est des titres que j'ai relevés de janvier. En février, donc dans la collection des romans durs de Simenon des éditions d'Argo, on a Barrio Negro, scénario de José-Luis Boquet et dessin de Raviret, 96 pages, 22,95 €. Alors, c'est un roman sur la déliquescence d'un couple. On va rester dans le milieu colon, justement, colonialiste, etc., des années 30 à Panama cette fois, où l'on a les Européens, les Américains d'un côté et les communautés africaines antillaises venues construire le Calan de l'autre, dans le Barrio Negro. Alors elle, puisque je parlais d'un couple, elle a conservé les réflexes de sa classe, à savoir s'intégrer là où il faut, afficher du mépris pour celui qui ne respecte pas les convenances.
Elle est blanche, ils sont belges.
Lui s'oublie dans l'ignorance. Lui s'oublie dans l'alcool, accepte des métiers déshonorants, fréquente les indigènes et peut-être le pire de tout, ne s'en cache pas. Absolument magnifique, hein, je conseille, tant au niveau de l'adaptation que du dessin de Raviret que de l'histoire.
Redonne le titre.
Alors le titre c'est Barrio Negro, donc avec José-Luis Boquet au scénario et Raviret, des si grands dessinateurs espagnols, au dessin. Alors à ne pas manquer ce mois-ci, est paru hier aux éditions Sarbacane, Marcel Basse-Coulard, 168 pages, 25 €. Alors dans un sublime noir et blanc, Franz Duchazeau nous brosse le portrait de ce dessinateur virtuose, pèlerin étrange qui déambule dans les rues de Bourges en habit de clochard ou vêtu en femme, un crayon et quelques feuilles toujours à la main. Donc c'est la fictionnalisation d'une histoire vraie et c'est absolument sublime. Il n'y a qu'à voir la couverture déjà et le dessin de couverture.
En noir et blanc, c'est ça, je vois juste l'intérieur du livre.
Tout en noir et blanc, oui. Puis alors justement, le dessinateur Franz Duchazeau va retranscrire les dessins de Bourges, etc., du Bourges moyenâgeux, c'est magnifique. Alors, va paraître cette fois-ci dans une semaine, alors Salaud de Baby Boomer, le premier tome du diptyque rock'n'roll de Baru, qui paraîtra donc mercredi prochain. Alors dans ce premier tome, on va trouver des histoires vécues, des fictions. Hein. Alors Baru sera en dédicace à la parenthèse le samedi 21 mars de 15h à 19h. Une fois n'est pas coutume, pas besoin de s'inscrire. Alors je vous en dis pas plus sur l'album, puisque nous aurons le plaisir de recevoir Baru, de l'accueillir dans une de nos prochaines émissions. Donc voilà, donc on en reparlera.
Mais une année sans Baru, c'est pas une année de BD. Hein.
Bah non. D'autant plus que normalement, le tome 2 devrait paraître en 2027, normalement. Alors, Cocorico aussi, Arco, hein, le film d'animation d'Hugo Bienvenue, dont nous avons parlé dans une de nos émissions précédentes, vient de recevoir le César du meilleur film d'animation et est en lice pour les Oscars. Verdict le 15 mars, donc il continue sur sa lancée. Alors, pour terminer les brèves, hein, la bande dessinée est l'invitée d'honneur du Festival du Livre de Paris, qui se tiendra du 17 au 19 avril au Grand Palais. La programmation est déjà en ligne sur leur site. L'ouverture de la billetterie se fera, elle, le 10 mars. Alors, parmi les rencontres, à noter, une rencontre avec Hugo Bienvenue, justement, une autre avec Florence Dupré-Latour, également, et une autre encore avec Laurent-Frédéric Bollet, le scénariste du roman graphique que j'ai choisi de chroniquer ce mois-ci, Le visage du créateur, qui est paru donc le 11 février dernier aux éditions Rue de Sèvres. 264 pages pour 25 €.
Alors, est-ce que c'est une idée ou est-ce que les BD sont de plus en plus conséquentes? Moi, quand... j'avais pas l'impression qu'il y avait autant de pages dans les BD quand j'étais.
Bah, disons que c'est avec la
petite.
Naissance du roman graphique, ça permet.
Oui, d'être.
Donc, ce qu'on... disons que aussi maintenant, les maisons d'édition même n'aiment plus trop quand c'est en plusieurs tomes. Parce que des gens vont appeler le premier tome, il suffit acheter le premier tome, il suffit qu'en plus de ça, il y a un petit peu de délai. Oui. Ça va se perdre avec le nombre de parutions qu'il y a maintenant. Les éditeurs, à la limite, préfèrent un gros pavé plutôt que de fractionner.
Mais aller au lit, c'est lourd.
Ah oui, aller au lit, c'est pas pratique.
Aller aux toilettes.
Alors, on va revenir sur le visage du créateur. Le visage du créateur. Hein. Alors, à l'heure où les Américains, justement, pour contrer la Chine, repartent de plus belle dans la course aux étoiles avec le programme Artemis, Laurent Frédéric Bollet, le co-scénariste de La Bombe, reconnu pour sa rigueur documentaire, et le dessinateur italien Cristiano Spadoni reviennent, eux, sur l'étrange tragique, sur l'événement tragique survenu il y a tout juste 40 ans, le 28 janvier 1986, plus précisément, la désintégration de la navette Challenger, 73 secondes exactement après son décollage, sous les yeux médusés et horrifiés de millions de téléspectateurs, provoquant ainsi la disparition des 7 membres de l'équipage qui se trouvaient à bord. Alors l'album va retracer à la fois le destin des 7 astronautes et les erreurs qui ont conduit à ce drame, erreurs qui auraient pu être évitées si on avait choisi d'autres solutions. Alors ce n'était pas une mission comme les autres, hein, cette mission-là. Elle était plus importante que les autres, justement, parce que la NASA avait décidé d'ouvrir pour la première fois la mission à 2 civils, un ingénieur et une professeure qui devaient donner un cours depuis l'espace, mettant ainsi le rêve de voyager dans l'espace à la portée de tout un chacun. Alors, Coaco Beach, côte de Floride, décembre 1996, 10 ans et 11 mois après la désintégration. Le récit s'ouvre sur ces mots et un père et son fils pêcheurs remontant dans leur filet un mystérieux débris estampillé du logo de la NASA. Alors ça va être l'occasion pour le père de se replonger dans le souvenir du drame survenu 10 ans plus tôt, donc l'explosion tragique de la navette Challenger. Et on va remonter dans le temps pour tracer le chemin des 7 astronautes, 5 hommes, 2 femmes. Atlanta, novembre 1967, 18 ans et 2 mois avant la défragation. Alors pourquoi remonter si loin ? Bah, tout simplement parce qu'aux États-Unis, quand on devient astronaute dans les années 70-80, c'est que gamin, eh ben, regardait Star Trek à la télévision. Alors nous allons partir à la rencontre de Nichelle Nichols, alias Nyota Uhura, l'ancienne héroïne de Star Trek, devenue une figure de proue de la NASA. D'ailleurs, c'est elle qui va embaucher plus ou moins la femme professeure qui va la choisir plus ou moins parmi les 10 000 personnes qui vont se présenter. Alors, histoire d'inciter justement les Afro-Américains et les femmes à se former et intégrer la prestigieuse agence spatiale qui voulait justement s'ouvrir. Il ne faut pas oublier que dans le vol Challenger, il y avait quand même 2 femmes, donc une scientifique et une... Il y avait un Afro-Américain. Il y avait un autre astronaute qui était d'origine asiatique. C'était très mélangé de ce côté-là. Et puis alors, quand on va lire l'histoire, on va se laisser happer par une progression, une chronologie, une montée en puissance avec ce compte à rebours implacable, avec à chaque fois tant de temps avant la désintégration, qui va rythmer le récit, haletant et formidablement documenté, créer de la tension et même du stress chez le lecteur. On a beau savoir la fin... ça monte. Hein. Alors, si l'on va bien suivre les 7 astronautes, c'est surtout autour de Christa McAuliffe, la professeure, choisie donc parmi des milliers de candidats, que va se cristalliser l'histoire. Âgée de 36 ans, mère de 2 jeunes enfants, elle était le symbole même de la conquête spatiale à la portée de tous. Alors, je vais terminer avec le dessin jeté à la vivesse de Cristiano Spadoni en noir et blanc, hein, qui va rendre vivant toute cette histoire. Alors vous avez compris, hein, le visage du créateur, The Face of Gold, comme dira Ronald Reagan, est un album absolument passionnant, qu'on s'intéresse ou non à l'histoire, la conquête spatiale. C'est une histoire d'hommes et de femmes.
C'est beau.
Bon, ben, merci Francine. Bon. Et ben David,
allez go, moi je vais
allez,
fonce. Oh, je fonce comme un dingue. Alors moi je vais vous parler d'un auteur, donc enfin de Robin the Boy Wonder de Juniba. Juniba,
Alors, je commence par Papa Johnny Bess, c'est intéressant. C'est un artiste illustrateur sénégalais, franco-sénégalais, installé en France, basé à Montpellier. Cet artiste primé aux études, a étudié à l'ESMA, donc l'École supérieure des métiers artistiques. Diplôme en poche, il pratique quelques années le fanzina, se prête au jeu éditorial, à l'animation, avec le collectif Kougali, qui possède donc une page Facebook que j'invite à aller voir. Un collectif de certaines meilleures BD africaines, une douzaine de créateurs de 10 pays africains, avec une version plutôt tout public, une version un peu plus mature, financée par Kickstarter. Alors, j'en reviens un petit peu, je fais juste une petite aparté, mais pour dire que on n'a pas trop parlé de l'édition, on a parlé d'édition africaine, mais c'est très compliqué effectivement pour eux d'éditer. Alors ils prennent par bien de biais, alors soit le Kickstarter, soit ils vont de temps en temps même migrer aux États-Unis pour faire bosser des copains. Enfin, ils ont une façon de bosser qui est compliquée parce que quand ils essaient de venir en France pour faire des bouquins, on leur ferme assez souvent la fenêtre. Enfin, c'est quand même assez vrai. Les petites maisons d'édition ne sont pas toujours au rendez-vous. Alors j'en parle un petit peu après. Johnny Bess continue à publier ses travaux donc en ligne avant d'être remarqué par les USA, bien qu'il ait déjà tenté à plusieurs reprises des éditeurs français, sans succès, mais j'y apprendrai. Johnny Bess va donc collaborer avec DC Comics, la collection Black Label. Robin the Boy Wonder en fait partie. C'est un label en fait, qui permet aux jeunes créateurs ils ont carte blanche en fait. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur ce bouquin-là, et en particulier Damien Wayne, le fils de Bruce Wayne, dans la série. Il bosse également pour Marvel, Black Panther, personnage qu'on a déjà évoqué dans une précédente chronique, chez Panini, dans Les Ombres au tableau. Johnny Bess est également mis à l'honneur, je ne sais pas si tu avais eu l'occasion de voir, en 2023, une exposition qui présentait la BD d'Afrique de l'Ouest.
Oui, j'avais vu la BD. Voilà. Il y avait une exposition sur la BD africaine, voilà. De toute façon.
Voilà, c'est ça, et en particulier. Donc le style de Johnny Bess est à la croisée de multiples influences. Mike Mignola, Hellboy, à Franquin, bizarrement, de Hiroyuki Takei sur la série Shaman King, ou encore Akira Torina. Toriyama. Il retiendra beaucoup de sa collaboration également avec Chris Samney, auteur américain, pour le côté épuré de son trait, et retiendrait également des qualités narratives de Moebius pour la construction des pages. Donc vous voyez, c'est des auteurs qui vont chercher vraiment un maximum d'influence, tantôt par le manga, tantôt le franco-belge. Ils s'inspirent, ils s'interdisent de rien vraiment, ça c'est intéressant. Au Sénégal, il découvre de ses 14 à 18 ans les animés, essentiellement. Je parle bien des animés, pas de la bande dessinée. Oui. Le Batman de Bruce Timm, le Dragon Ball, les jeux vidéo Sonic, il est passionné par le design et par aussi Spider-Man de Humberto Ramos. Avec Johnny Bess, on rencontre un auteur qui n'hésite pas à demander à collaborer, par exemple, avec Salim Boussourou, un auteur kényan, sur la série Tortue Ninja. Alors, certes, le continent africain est grand, rappelons qu'il a 60 états et territoires africains. Donc, quand on parle de l'Afrique, en fait, je crois qu'on se trompe. C'est l'Afrique dans sa multiplicité, c'est-à-dire dans l'immensité des pays, et avec des fois des diversités d'un pays à l'autre. Enfin, l'anglais, le français... Il y a beaucoup de choses aussi dont on aurait pu parler sur ce sujet. Malgré un monde ultra connecté, il n'est pas simple de dénicher les jeunes talents dans ce pays. C'est pour ça qu'ils se débrouillent assez souvent tout seuls. Hein, j'en reviens donc à ce que je disais. Johnny Bess, lorsqu'il propose à des éditeurs français de faire de la fantasy ouest-africaine, on lui rétorque « Oh, c'est pas trop comment ça va maqueter là le livre, on sait pas si ça va se vendre. » Bref, vous voyez, on est frileux. Selon l'avis de Johnny Bess, et c'est son avis, ce n'est que le sien, voilà, il s'engage là-dessus, les éditions européennes sont un peu ancrées dans des habitudes, des types d'histoires, une esthétique, avec l'idée que ça ne va pas forcément intéresser parce que c'est africain, ou que les gens ne connaissent pas, ou bien ce constat du professionnel est faux. Il faut donner sa chance au truc avant de décréter qu'il ne marchera pas, ce que font les USA. Et ce que fait un peu moins peut-être le marché français. Souvent, c'est le quotidien, la réalité, qui est plus prisée que l'imaginaire et la fantaisie. On le voit à travers des ouvrages qui traitent notamment des conditions de la vie, par exemple, d'une histoire qui est vraiment ancrée dans une réalité. La fantaisie, tout ça, a beaucoup de mal à s'ancrer dans la BD. Par exemple, on peut aussi citer le travail sur la BD de Aya de Yopongo, série écrite par Marguerite Aboué et illustrée par Clément Oubriri, qui est décédé.
Qui vient de décéder
il n'y a pas longtemps. Édité à partir de 2005 chez Gallimard dans la collection Bayou. En Afrique, le constat est assez clair. La BD produits sont rarement par des éditeurs privés. L'édition des livres est le plus souvent le fait d'ONG, d'associations utilisant la BD comme un média, un relais à destination pédagogique, mais peu pour des visées de divertissement. Voilà. Faux de bibliothèque publique, on emprunte emprunter des albums, aussi un pouvoir d'achat insuffisant, en s'échangeant les BD par d'autres canaux, par l'entrevue de clé USB, on a craqué des mangas, des comics pour les refiler par clé USB, mais c'est une réalité, ça existe, c'est comme ça. Les premières BD de Junika Djeliba est un fusée de folklore africain paraît chez TKO en 2021, n'existe pas en France, ou encore Unlikely Story de Félix et Macabre chez Dark Horse 2023. Indisponible en France. Le projet, pour ça j'insiste un peu, mais je fais exprès. Le projet s'enchaîne et les collaborations Black Panther, Tortue Ninja, Harley Quinn. Une fois, Des fois, juste des couvertures ou de l'ancrage pour faire ses armes. En 2024, The Boy Wonder, que j'ai sous la main, élu meilleur one-shot de super-héros en First Print Award. Les Fables du Roi des Aulnes, si tu connais, je ne sais pas si ça dit quelque chose, Francine. D'abord financé au crowdfunding, publié chez Coast Flying Press en 2025, États-Unis, puis enfin chez Bayard en 2026. Troisième opus. Jumiga veille désormais à garder le contrôle sur ses créations, quitte à refuser des projets. L'expérience du travail UGSA l'a enrichi en tant que jeune auteur et a permis aux éditeurs français de se rendre compte de son talent. C'est un juste retour des choses en somme. Petit conseil rapide, je vous conseille d'aller voir le documentaire Les Héritiers de Captain Africa, documentaire réalisé par Xavier Fournier et Frédéric Rallière en mai 2025 sur Warner TV Next ou disponible sur la plateforme Max. 1h10 de documentaire sur le continent africain où les comics ont de nombreuses choses à transmettre. Un panorama complet sur les super-héros et les ruines de l'Afrique. Le collectif Kugali, que j'ai déjà cité, qu'on reverra peut-être sur la page Facebook. Et les lectures, bien sûr, de notre ami Giovanni. Mobilis, Ma vie avec le capitaine Nemo, aux éditions 2, La fable du roi des aulnes, Monkey Meat, tome 1, chez Panini Comics, Black Panther, et enfin The Boy Wonder, que je viens de citer.
Très bien.
Oh, t'as tout ça en apnée.
Ça va, je suis...
Une dernière petite parenthèse avant de finir. On parlait de Hugo Bienvenue et des Oscars. Je fais la petite pub sur RCN. Vous pourrez vivre la soirée des Oscars en direct de 23h à 3h du matin. Donc bon, ça sera pour les nocturnes. Donc ça sera le dimanche à 23h puisque c'est dans la nuit de dimanche à lundi puisque c'est aux États-Unis. Donc on espère l'Oscar pour Hugo Bienvenue. Ouais. Donc pour le meilleur film.
Ça sera mérité, franchement.
Ça serait bien. Voilà.
On va être obligé d'en regarder.
La petite parenthèse.
Merci César. Merci. Ça serait bien.
Tout à fait. Et il y a un film là, sur les phylactères qui va sortir bientôt aussi.
On va suivre. On en parlera.
Maintenez-nous au courant. Belle émission donc, sur les thèmes avec des auteurs qu'on aborde peu. Je remercie Ridouane Natif. Allez voir ce festival Livre d'ailleurs. C'est un des rares festivals du mois de mars parce que Nancy, les activités commencent beaucoup à partir du mois de juin. Merci à mes comparses du Son des Bulles, c'est-à-dire Francine, Olivier, David, Charles.
Merci
à Joris. Et merci à tout le monde et aux autres. Et à bientôt. Et c'est signé Françoise.
À bientôt à tous.
Au revoir.